9h23, on a pris un petit peu de retard là, pour être bien donc en selle pour accueillir donc le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Il est au bout du fil. Bonjour, M. Drainville.
Oui, bonjour, M. Turcotte.
Bonjour, c'est M. Moi, c'est oui. M. Turcotte, c'est M. Prévost qui me remplace comme animateur du matin.
Pour donc, la saison
pour
estivale.
Pour la saison estivale. M. Drainville, je suis là, donc aussi.
OK, alors je parle à M. Prévost et à M. Turcotte, c'est les deux
oui.
en même temps.
Là. Oui, exactement. Alors, on aura donc droit à une entrée scolaire, une rentrée scolaire là, haute en émotions et beaucoup de changements donc en vue là, pour cette entrée scolaire. On peut parler premièrement de l'interdiction du cellulaire, également le vouvoiement qui va entrer en fonction et le projet de loi là, sur la laïcité, entre autres. Là.
Oui, alors le cellulaire, c'est pour septembre, donc c'est vraiment pour la rentrée de la fin août.
Ouais.
Pour le vouvoiement, monsieur, madame, les mesures de civisme, ça va être plutôt janvier, quoique si les écoles, les centres de services veulent faire entrer ça en vigueur avant janvier, évidemment, elles sont le bienvenu, puis on le souhaite, mais ça va devenir obligatoire en janvier. Puis pour la laïcité, le projet de loi, effectivement, a été déposé. On a commencé à l'adopter, mais on n'a pas terminé de l'adopter. Donc, on espère finir ça dans les prochaines semaines, là, dès la rentrée parlementaire. Fait que, quelque part, cet automne, la loi devrait être adoptée. Là, puis à ce moment-là, elle va entrer en vigueur au même moment. Il n'y aura pas de délai, là, t'sais.
Alors, c'est possible. Donc, c'est une chose que j'ignorais, honnêtement. Le vouvoiement, donc, seulement à partir de janvier. Vous avez pas peur, dans un sens, que ça soit difficile à mettre en place, le fait de commencer seulement en janvier, le vouvoiement?
Ben, écoutez, c'est sûr que ça va demander un ajustement, mais tout changement, monsieur Prévost, tout changement rencontre parfois de la résistance. Puis ça, tu sais, ça commande une adaptation. Il faut s'adapter. Alors, est-ce que tout va se faire d'un coup? Non. Je suis certain que ça va être évolutif. Mais c'est le signal qu'on envoie. Le signal qu'on envoie, c'est que on veut renforcer, sinon rétablir le respect dans les écoles, le respect envers l'adulte, envers l'école qu'il représente, qu'elle représente. Puis on agit d'une certaine manière en prévention, parce qu'on l'a vu. Les incidents liés à la violence et l'intimidation sont en forte hausse. On est témoin de ça. On comprend pas nécessairement toutes les raisons pour lesquelles on est là-dedans. On sait que les réseaux sociaux peuvent jouer. On sait que la COVID a pu jouer et tout ça. Mais l'idée de ces mesures-là, comme le cellulaire, le vouvoiement, le civisme, c'est pour justement contribuer à établir une culture de respect puis une culture de civisme dans les écoles. Puis donc, prévenir peut-être des actes ou des comportements d'intimidation ou de violence ou d'incivilité. Ça participe d'une espèce de... Comme si on voulait créer un peu un environnement différent dans les écoles ou en tout cas renforcer certaines valeurs qui nous sont chères. Puis on espère qu'en renforçant les valeurs, on va prévenir les comportements qui sont pas acceptables.
Monsieur le ministre, en ce qui concerne la laïcité, là, qu'est-ce que ça va changer techniquement dans les écoles? Donc, on a vu ce qui s'est passé là, dans certaines écoles où c'était des professeurs de confession religieuse musulmane là, qui contrôlaient complètement là, l'école. Comme deuxième question, comment on a pu en arriver là? Est-ce que on peut rejeter le blâme là, sur les commissions scolaires à l'époque? Qui ont laissé germer là, ce confessionnalisme, d'ailleurs, dans plusieurs écoles?
Ben, vous posez une bonne question, M. Turcotte. Vous posez une bonne question. Je pense qu'il y a eu un laisser-aller, mais je ne suis pas sûr que c'est juste à cause d'un laxisme, mettons, des directions des commissions scolaires avant qu'elles ne s'appellent les centres de services scolaires. Tu sais, on peut bien chialer contre la CAQ, là, mais c'est le premier gouvernement qui a fait voter une loi sur la laïcité. Là.
Oui.
Moi, ce que je fais, c'est que je viens renforcer la loi sur la laïcité en faisant en sorte que toutes les personnes qui travaillent dans l'école soient irréprochables sur le plan du comportement, puis sur le plan aussi de l'image qu'ils projettent, donc sur le plan vestimentaire. par rapport à tout signe religieux. Moi, là, le projet de loi 94, ça va faire en sorte que c'est déjà les enseignants et les directeurs d'école, directeurs, directrices ne peuvent pas porter de signe religieux. Mais avec le projet de loi 94, c'est toutes les personnes qui travaillent dans les écoles publiques auprès des élèves qui vont devoir être neutres, qui vont devoir laisser de côté leur signe religieux pendant les heures à l'école, les heures où ils travaillent à l'école. Oui. Puis on va également faire en sorte qu'il y ait des sanctions. On va renforcer les sanctions. On s'assure que des valeurs comme l'égalité entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes, se soient respectées tout le temps. Là aussi, il peut y avoir des sanctions. On s'assure que tous les cours sont donnés. On a vu à Bedford là, des cours de sciences, d'éducation sexuelle qui n'étaient pas donnés, entre autres pour des raisons religieuses, là, des raisons de conviction religieuse. On va beaucoup restreindre les accommodements de nature religieuse, comme les congés religieux. Oui. Tu as des écoles à Montréal. Là, oui. Il s'agit que tu déclares une religion pour avoir droit à plus de congés. C'est inacceptable, ça.
Oui, effectivement.
Et Monsieur le ministre, qui dit rentrée scolaire, dit également là, la séance d'affectation, dans les dernières séances d'affectation là, pour placer le personnel enseignant, le personnel de soutien également. Ouais. Est-ce que vous êtes au fait là, de ce qui se passe un petit peu dans la région? Comment ça se déroule actuellement, les périodes d'affectation?
Écoute, on a parlé avec les centres de services scolaires au cours des derniers jours. Et puis, moi, ce qu'on me rapporte, là, c'est que ça se passe vraiment bien. Monsieur Prévost, qu'il n'y aura pas parfois qu'il n'y aura pas des petits retards, qu'il n'y aura pas parfois des postes qui prendront plus de temps à combler qu'on l'aurait voulu, mais selon les conventions collectives, là, ça c'était bien important pour moi, tous les enseignants doivent être affectés d'ici demain, le 8 août. Parce que il y avait, avant ça, là, vous rappelez-vous, là, il y a des élèves qui rentraient dans la classe au début de l'année scolaire, puis l'enseignant était même pas encore choisi, là.
Ouais,
les affectations étaient même pas terminées. Ça, moi, je trouvais que ça n'a pas d'allure. Ça n'avait pas d'allure. Alors, on l'a changé. Fait que là, les centres de services scolaires, ils travaillent très fort pour combler ces postes-là. Ils vont rester à combler au niveau des suppléants et tout ça, mais la majorité vont être comblés. On va avoir les premiers chiffres officiels, mercredi prochain. On va les diffuser par centre de services scolaires. Puis les autres postes, les postes de professionnels, les postes de personnel de soutien, comme les techniciens en éducation spécialisée, tout ça, les techniciennes, ça, les affectations sont en cours. Elles vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'août.
Vous avez tout de même donné beaucoup de fil à retordre, on va le dire, au centre de services, aux directions scolaires, avec cette annonce-là, là, veux pas, le 12 juin, là, des coupures budgétaires. Le 16 juillet dernier, ben, en annonçant le réinvestissement, finalement, en éducation, ben, vous avez dit, on a écouté justement les besoins du milieu, on a décidé justement de les écouter. Mais ces mesures de coupure ont été justement annoncées, comme je le disais, le 12 juin. Pourquoi vous n'avez pas mené justement ces consultations qui sont quand même assez cruciales durant les 11 mois là, qui ont précédé justement avant d'annoncer ces coupures-là? Parce que, veux, veux pas, ça a apporté quand même beaucoup de choses là, au milieu de l'éducation. Parce que si on avait justement pas annoncé ça, ben on n'aurait justement pas eu de fermeture de classe, pas de stress justement dans les familles des enfants là, qui ont des besoins, pas de coupure chez les éducateurs là, avec tout le stress justement qui a entouré les séances d'affectation. On parlait justement de séances d'affectation. Alors, beaucoup d'émotions aussi, là, je pourrais dire, qui ont quand même été désagréables, là, provoquées justement par cette annonce-là.
Oui. Bien, écoutez, laissez-moi le temps de répondre, M. Prévost, parce que c'est quand même
problème.
Complexe. Le budget de l'éducation, là, il augmente de 7 % par année depuis que la CAQ est au pouvoir. Okay? Depuis 2018, c'est plus 7 % plus 7 % plus 7 % plus 7 % On s'entend qu'à plus 7 % à un moment donné, là, c'est insoutenable. La capacité de payer là, du gouvernement et donc des gens qui nous écoutent là, n'est pas infinie. À un moment donné, il y a une limite. Cette année, moi, ce qu'on leur a dit, vous n'aurez pas 7 % vous allez avoir 5 % Bon, ben c'est la différence entre 7 et 5 qu'on leur demandait. Là. Donc, quand vous dites coupure, c'est pas coupure. C'était une augmentation moindre que celle à laquelle ils étaient habitués. C'est ça la vérité. Et donc, le 500 millions, c'est la différence entre une augmentation de 7 % de ton budget et une augmentation de 5. Bon. Cela étant dit, ils nous ont dit, écoutez, on est habitué à du 7. Vous nous demandez un effort budgétaire. vous nous demandez de ralentir, vous nous demandez de réduire par rapport à ce à quoi on était habitué, vous nous en demandez trop. Et surtout, vous ne nous donnez pas assez le temps de nous ajuster. C'est ça que les centres de services nous ont dit. Et par ailleurs, ils nous ont dit aussi, les besoins sont encore plus importants que vous le pensiez. À cause surtout de l'immigration. Le nombre d'élèves qu'on doit scolariser dans certains centres de services a augmenté encore plus qu'on le pensait. Puis là, vous voyez ce qui se passe actuellement là, au poste de la colle. Les demandeurs d'asile qui rentrent, là, comme à coups de milliers. Là. Bon, ben ça veut dire effectivement qu'on va avoir encore des nouveaux élèves, des nouveaux élèves immigrants, si on peut dire, puis je les blâme pas, là, ces élèves-là, ils arrivent, puis il faut s'en occuper. Ça nous rappelle qu'il faudrait que le fédéral fasse sa job aux frontières, mais mettons, on va pas s'étendre sur le sujet.
Ouais.
Mais tout ça pour vous dire qu'on s'est au terme des discussions, on s'est rendu compte que l'effort qu'on leur demandait était très exigeant, il y avait besoin de plus de temps, et par ailleurs, on avait plus de besoins qu'on l'avait anticipé, notamment à cause de l'augmentation du nombre d'élèves. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, OK, on va vous réinjecter 540 millions. Donc, tous les centres de services, y compris ceux dans votre région, vont avoir une augmentation de leur budget. Mais on leur dit, par contre, tout l'argent doit aller d'un service aux élèves. Mm-hmm. Puis, deuxièmement, pour obtenir cet argent-là, vous allez devoir réduire vos dépenses administratives. Vous allez devoir gérer plus serré que ce que vous le faites, que ce que vous le faites présentement. Puis, je dis pas qu'ils gèrent pas serré, je dis pas qu'ils gèrent mal, mais ce que je dis, c'est qu'il faut trouver une manière de mieux faire travailler l'argent qu'on investit en éducation, parce qu'on peut pas se permettre, sur le long terme, d'augmenter à chaque année de 7 %, là.
Oui.
La capacité de payer est pas infinie, là. Fait que là, quand j'ai dit que c'était pas un bord ouvert, c'est pas un bord ouvert. On donne de l'argent, oui, mais ils vont devoir livrer des mesures d'efficacité administrative pour pouvoir toucher cet argent-là pendant l'année scolaire.
Mais M. Drainville demeure qu'il va avoir des répercussions actuellement lors de la rentrée scolaire. Il y a eu des fermetures de classes quand même, il y a eu des coupures de postes, des réductions justement directement aux services et aux élèves. Il va y avoir des répercussions. Je comprends qu'on va offrir justement cet argent-là supplémentaire aux centres de services, aux directions d'école, mais à la rentrée scolaire, on voit justement des effets. Il y a eu des coupures, il y a eu des fermetures de classes quand même qui ont été faites.
Oui, mais là, ça c'était ce que vous me dites là, c'était avant le réinvestissement.
Mais ça ne sera pas fait, avant ça.
Depuis qu'on a fait le réinvestissement, là, M. Prévost, là, on est en discussion avec les centres de services. Puis moi, j'ai demandé aux centres de services scolaires, avec le réinvestissement, qu'est-ce que ça va produire comme résultat? Alors, par exemple, au centre de services scolaires des Forts, c'est bien le vôtre, ça?
Oui, oui.
Bon, alors ce qu'on me dit, comblement de tous les postes vacants en service direct à l'élève, tels que les professionnels, les TES, les TTS, les TTP, les techniciens en loisirs, etc., etc. Alors, moi, ce qu'on me dit, ce que la direction du Centre de services scolaires des Forts me dit, c'est qu'avec l'investissement que nous avons fait, ils vont être en mesure de combler des postes de service direct à l'élève. Alors là, il faut leur laisser le temps.
Dès la rentrée scolaire, ça, où on va peut-être justement avoir une certaine marge? Parce que c'est sûr, tu sais, je vais vous avouer, là, on a eu en entrevue justement une dame avec son jeune qui était justement à besoin particulier, qui a justement dit, on a eu une fermeture de la classe. Maintenant, ils vont être un éducateur pour deux classes de 16 élèves au lieu d'avoir un éducateur avec 9 élèves, pour 9 élèves exactement. Donc, bon, c'est sûr qu'il va avoir justement, ça a engendré beaucoup d'émotions pour un jeune. Puis, tu sais, je me dis, c'est un jeune justement par classe que ça touche autant que ça. Bien, à la grandeur du Québec, ça fait énormément, là.
Bien, M. Prévost, moi, ce que je vous livre, là, c'est l'information qui nous provient directement de la direction du Centre de services scolaires des Forts. Alors, il faudra les questionner, il faudra leur demander ce qu'il en est, mais vous pouvez me citer, là. Vous pourrez passer l'extrait que je viens de vous donner, là. Passez-le dans l'entrevue, là. J'ai déjà fait ça, ce job-là, moi, là.
Oui.
Demander à la direction générale, là, de réagir. Mais l'information qu'on a, là, c'est que tous les postes vacants en service direct à l'élève vont être comblés. Alors là, maintenant, tu sais, est-ce que ça se peut qu'il y ait un peu de, comment dire, qu'il y ait une transition puis qu'au départ, au début de l'année scolaire, qu'on soit encore un petit peu dans le comblement de certaines heures de TES ou de d'autres postes, on peut pas l'écarter. Je ne vais pas vous conter des histoires. Mais chose certaine, des signaux qu'on a des centres de services scolaires, c'est qu'avec l'argent qu'on a réinvesti, ils devraient être en mesure de combler les services aux élèves qu'ils donnaient auparavant. Est-ce que ça va être exactement la même chose? Peut-être pas. Ça se peut. Mais je vais vous dire, M. Prévost, là, les besoins là, dans les écoles, là, ils sont infinis.
Oui. Oui.
Mais c'est vous sûr me demandiez, que... posez-moi la question. M. Drainville, est-ce que tous les élèves du Québec, le 1,4 million d'élèves, vont avoir tous les services dont il a besoin?
C'est non.
La réponse, c'est non. Ben non, non, ça n'arrivera pas. Parce que on a besoin de plus d'orthophonistes, de plus d'orthopédagogues, de plus de psychoéducatrices, de plus de psychologues, de plus de TES, de plus d'éducatrices, de plus d'aide à la classe, de plus d'enseignants. Ben oui, mais à un moment donné, le contribuable, là,
Est-ce que selon vous, M. Drainville, parce que je vais vous avouer que c'est un sujet qui me touche en particulier parce que je suis à l'animation justement radio l'été en période estivale, mais je suis enseignant de profession là, donc je suis enseignant dans une école primaire là au moment où est-ce qu'on va avoir la rentrée donc dans deux semaines, mais moi ce que je me pose comme question, c'est qu'on a mis sur place justement avec le gouvernement les classes inclusives. Est-ce que c'est encore une solution si on veut justement diminuer les augmentations, coûts. Les coûts, exactement?
Ben, M. Prévost, d'abord, merci d'être un enseignant.
Plaisir.
Ouais. Je le dis sincèrement. Là. J'ai besoin de vous, là, comme j'ai besoin de tous les enseignants, puis j'ai besoin de toutes les personnes qui sont dans nos écoles au Québec présentement. Puis il nous en manque, comme vous le savez. L'inclusion, ça, là, c'est un grand débat. Okay? C'est un vaste débat. On essaie de trouver l'équilibre. Avec l'intégration des élèves à besoins particuliers. Puis la science dit que, somme toute, honnête, les élèves sont gagnants, et pas juste les élèves qui sont à besoins, les autres élèves aussi. C'est ce que la science de l'éducation nous dit. Mais comme vous le savez, il y a de plus en plus de questionnements autour de ça.
Ouais.
C'est la raison pour laquelle, depuis 2018, depuis que le gouvernement de la CAQ est là, encore une fois, on n'est pas parfait, mais ça, c'est indéniable. On a créé tout près de 1000 nouvelles classes spéciales dans les écoles du Québec, notamment pour l'essentiel des classes d'adaptation scolaire, pour nous permettre justement de prendre des élèves qui ont de trop grands besoins pour être dans une classe régulière, les envoyer dans des classes plus petites avec un enseignant d'adaptation scolaire, avec souvent une TES, puis essayer dans des groupes plus petits de les faire cheminer pour faire en sorte qu'ils réussissent eux autres aussi leur parcours scolaire. Mais c'est difficile de trouver ce point d'équilibre-là, vous le savez.
Oui.
Il y a des années, vous l'avez peut-être vécu, il y a des années, vous avez une classe de 20, mettons, vous avez trois élèves qui ont des grands besoins, qui prennent à eux seuls 50% de votre temps d'enseignement.
Oui.
Bon.
C'est pour ça qu'on a besoin davantage d'éducatrices dans les classes. T'sais, c'est sûr qu'avec les classes inclusives, ben, ça fait en sorte que les besoins de TES, par exemple, les besoins d'aide à la classe sont en augmentation d'année en année. Là.
Est-ce que vous avez pu bénéficier, là je connais pas votre prénom, M. Prévost, là, mais
Nicolas.
Est-ce que vous avez pu... Comment?
Nicolas.
Nicolas. Est-ce que vous avez pu bénéficier, Nicolas, d'une aide à la classe, vous?
Oui, j'ai pu bénéficier de ça, oui.
Ben. Tu sais, quand on dit, là, on lit ça là, dans les médias tout le temps, là, l'éducation, tout va mal, il n'y a rien qui bouge, ça ne s'améliore pas, ben les aides à la classe, là, pour moi, je vous le dis, là, c'est ma plus belle fierté. Parce que dans la moitié des classes du Québec, au primaire, là, au public, il y a, depuis l'année passée, un deuxième adulte pour venir prêter main forte à des enseignants comme vous. Pas à temps plein, en général, c'est autour d'une dizaine d'heures par semaine. Mais je vais vous dire une affaire, quand je fais le tour des écoles, ils sont contents en sacrifice.
Oui,
les
non,
enseignants
effectivement.
Se sentent appuyés, les éducatrices se sentent valorisées, ils ont souvent des temps pleins alors qu'il n'y en avait pas auparavant. C'est fantastique, les aides à la classe. C'est une vraie amélioration, Nicolas.
Oui,
c'est une vraie amélioration.
Ben, ça aide, c'est sûr, à la planification et tout là, pour l'enseignant. Mais c'est sûr qu'ils en font un petit peu plus que qu'est-ce que le papier le mentionne à la base, t'sais, c'est-à-dire dans la gestion de classe. Il aide énormément l'enseignant. Puis une aide à la classe n'est pas censée faire ça de base. Ça, c'est sûr.
Oui, mais est-ce que vous vous en plaignez?
Non, au contraire.
C'est ça. Tu sais, fait que quand tu mets tout ça bout à bout, tu sais, il y en a des très belles choses qui se font en éducation. Oui. Vous le savez, moi, t'as dit, je suis tellement content de savoir un enseignant qui est animateur de radio. Ça, c'est le jackpot.
Ouais, ben, j'ai fait un retour aux études pour pouvoir être enseignant. J'étais animateur radio là, à la base. Ouais.
Bon, ben, garde là. Je m'en réjouis, puis je souhaite qu'il y en ait d'autres qui le fassent. Puis c'est pour ça qu'on a créé les voies rapides là, pour des personnes qui sont déjà dans les classes. Ils n'ont pas de brevet, mais ils sont déjà dans les classes. Puis, ils ont un bac. Ils ont un bac en histoire, en français, en anglais, en géographie, en chimie. Puis là, je leur permets d'aller chercher leur diplôme avec une formation de 30 crédits pour la pédagogie, là, qui améliore leur façon d'enseigner, là. Bon, ben là, j'ai un paquet de monde qui sont contre moi là-dessus. Parce que je trouve, moi, là, que ça a du bon sens, là. Quelqu'un qui a un diplôme en histoire, là, donne-lui une bonne base en pédagogie. Il est capable d'aller enseigner univers social.
Oui.
Ça peut être un excellent prof. Ça peut être un gros plus dans une école. Mais tu vois, ça, c'est des améliorations qu'on essaie de faire. On n'entend jamais parler. Ce qui se fait de beau dans les écoles, là, puis Dieu sait qu'il s'en fait du beau là, à chaque jour dans les écoles, là, mais on n'entend jamais parler. C'est pour ça que je dis, notamment aux syndicats, oui, critiquez. Oui, sortez pour dénoncer, puis... c'est planter le ministre. Allez-y allègrement. Mais voulez-vous, après 10 sorties, là, pouvez-vous en faire une positive pour venir dire le beau que vos membres, le beau qu'ils font dans les classes, pour dire le positif, pour encourager des jeunes qui vont peut-être entendre cette entrevue-là, de leur donner le goût d'aller s'inscrire en éducation, parce qu'actuellement, on a trop de jeunes qui veulent, ils pensent même pas. Savez-vous pourquoi ils y pensent pas? Pas parce que les salaires sont pas bons. Les salaires ont augmenté de beaucoup.
Oui.
Mais tout ce qu'ils entendent dire, c'est que l'école, c'est l'enfer.
Ah oui, c'est vrai.
Ben, c'est. Oui. C'est sûr que c'est vrai. Fait que la raison pour laquelle je suis content que vous soyez là, je vous écoute malheureusement pas. Là, qu'est-ce que tu veux?
Oui, à Montréal. Faire, là.
Mais non, je suis à Québec, je suis à Lévis.
Ah, OK, oui.
Non, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas écouter tous les médias du Québec.
Non, c'est
d'autant
sûr.
D'autant plus qu'en général, quand ils parlent de moi, c'est pas trop positif. Fait que, maintenant, tu te concentres sur ce que t'as à faire, puis moi, je me concentre sur les élèves, parce que c'est pour ça que l'école existe. L'école, elle existe pour les enfants. Mais moi, je me dis, d'avoir un enseignant qui est animateur, qui est capable, justement, d'expliquer à ses auditeurs, oui, les problèmes, puis je vous dis pas de pas en parler, parlez-en. C'est pas ça l'enjeu.
Mm-hmm.
Mais de dire aussi, hey, moi, là, l'année passée, là, j'avais un kid dans ma classe, là. Début de l'année, là, l'enfer. À la fin de l'année, là, il est venu me voir, puis il m'a donné un câlin, puis il m'a dit merci.
On en a ça, plus là, qu'un, ça, un élève par classe qui font ça. Bon.
Oui. Ça, là, c'est la récompense ultime. Puis ce jeune-là, dans 10, 15 ans, 20 ans, là, il va parler de Nicolas Prévost, puis il va dire, c'est un prof qui a changé ma vie.
Et je veux donc, parce que le temps file, veut pas, on a donc, je veux vous poser une dernière question. On parle beaucoup de remaniement, justement, ministériel ces temps-ci. Ma dernière question, est-ce que vous croyez, justement, que vous allez demeurer le ministre de l'Éducation avec ce remaniement-là?
Ben, je ne sais pas. Il n'y a pas un chat qui le sait, puis on ne sait pas ce qui va nous arriver. Puis on est tous dans l'attente, dans le fond, de savoir. Mais si M. Legault décide de me garder là, moi, je suis très heureux. Je sais pas que c'est toujours facile, mais je me plains pas, je l'ai choisi. C'est moi qui ai choisi de revenir en politique. Braille pas sur ton sort, c'est toi qui as choisi. Puis moi, je travaille pour les élèves. Je vais te dire une affaire, quand tu te lèves le matin et tu t'en vas travailler pour les enfants du Québec, là, ça a du sens.
Oui.
Tu comprends?
Mais
s'ils décident de me laisser là puis de finir la job, ça va me faire grand plaisir. Parce qu'on a encore plein de changements qu'on essaye de faire, puis c'est pas toujours facile, mais c'est pas grave, faut les faire pareil. Fait que je vais être très heureux s'ils me laissent à l'éducation. Puis s'ils décident de m'envoyer ailleurs, ben je vais essayer d'être... Je vais donner mon max. Je vais donner mon 120%, puis je vais travailler... Je vais donner mon... Je vais faire de mon mieux.
Oui, puis vous pouvez dire, M. Drainville, à M. Legault, qu'on veut garder notre ministre régional ici à Rimouski aussi.
Ah ben, je suis sûr que vous y avez fait déjà le message, non?
Ben, on aimerait bien fort lui faire directement le message, mais on le fait à notre ministre ici.
Oui. Merci, M. Drainville.
Merci beaucoup, M. Drainville.
M. Turcotte et M. Prévost, bravo. Puis bonne rentrée scolaire, Nicolas. Bonne rentrée scolaire. Puis,
merci.
Je le dis sincèrement, saluer les profs, puis pas juste les profs, l'équipe école avec laquelle vous travaillez. Je sais qu'il y en a qui m'aiment pas, mais je sais qu'il y en a qui m'aiment.
Oui.
Quand il y a de l'amour, il y a de l'amertume un petit peu aussi.
Ouais, ouais,
merci. Si vous passez par Rimouski, venez nous voir.
On est dans les affaires humaines. La perfection n'est pas de ce monde.
Exactement. Monsieur Drainville, merci beaucoup encore une fois.
Merci.
Salut.
Bernard Drainville, ministre de l'Éducation.